c'est le conte du Homère entre les deux, avec toutes les significations spirituelles qu'on connaît, et sur lesquelles peut-être le Rav reviendra. Mais entre les deux, il se passe des tas de choses, il s'est passé des tas de choses, il y en aura encore. On a commémoré la Shoah, on a marqué Yom HaZikaron, on est passé à Yom HaTzmaout, avec le passage de la peine à la joie. On aura encore, Bezrat Hashem, bientôt Yom Yerushalayim, qui marque la direction de Jérusalem, pour arriver à Shavuot. Alors, on s'est demandé si dans le cadre de ce séminaire, dont c'est la quatrième séance sur l'identité d'Israël, on s'est demandé si finalement cette chronologie, qui est un peu bizarre, parce que Pessah, c'est la sortie d'Égypte, Shavuot, c'est le nom de la Torah, en route vers Eretz Israël, entre les deux, on a des commémorations qui sont plutôt contemporaines, hein, et on s'est demandé, est-ce qu'il y a un sens à tout ça, hein, est-ce qu'il y a un ta'alir, une espèce de progression, et qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et je pense que le mieux placé pour réfléchir avec nous sur cette question, c'est le Rav Ben Arouche, parce que il suffit pas simplement d'histoire, il s'agit pas simplement d'histoire, hein, mais il s'agit bien de comprendre quel est le sens des différents événements qui affectent le peuple juif, sachant, comme disent les Chachamim, que « en mikre ba'olam », qu'il n'y a pas de hasard dans le monde, et que, eh bien, voilà, s'il n'y a pas de hasard, alors c'est qu'il y a un sens. Quel est-il? Donc je vais laisser la parole au Rav Ben Arouche, je n'ai plus besoin de vous le présenter, hein, on l'a entendu plusieurs fois à l'espace francophone, on peut même l'entendre sur la chaîne Torah Box, pour ceux qui ont cette chaîne, et puis en plus du fait qu'il enseigne la Torah, et notamment Torah Tanista, la Torah de ce qui est caché, le Rav Ben Arouche nous révèle également des œuvres d'art à travers ses tableaux, sa peinture, et on l'avait dit la première fois qu'il était venu, finalement il l'avait dit lui-même, il n'y a pas de fossé entre son art, hein, et l'étude qu'il fait de la Torah, et la manière dont il nous l'explique, c'est toujours très coloré, très, très vivant, voilà, comme un beau tableau. Donc je vais le laisser à nouveau nous présenter une œuvre d'art ce soir, merci.
Merci pour votre accueil. Le premier Rashi de la Torah concernant le récit de la création du monde nous donne immédiatement des explications concernant ce que le peuple d'Israël devra répondre aux nations du monde au moment du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Incroyable, mais vrai, Rashi ne s'adresse même pas au récit de la création à proprement dit, mais il a compris que le mot Réchit ne veut pas dire commencement. Tout simplement parce qu'au niveau grammatical, ça ne marche pas en hébreu. On ne peut pas dire Bereshit bara, en traduisant cela au commencement, Dieu créa. C'est faux. Quiconque parle l'hébreu sait que après un terme comme Bereshit, il faut un nom. Par exemple, Bereshit Hakai, au début de l'été. On ne peut pas dire Bereshit Bara, ça ne veut rien dire en hébreu. Et donc, il ne peut pas venir un verbe après le mot Reshit. Ce qui veut dire que Réchit n'est pas le sens d'un début de quelque chose, mais le nom de quelqu'un. Et donc la traduction n'est plus « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais « B » par Réchit, quelqu'un qui s'appelle Réchit, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu utilisa une force qui s'appelle Réchit pour créer le monde. Ou bien, V en hébreu introduit une notion de pour, Bishvil, donc pour Réchit, Dieu créa le ciel et la terre. Or, qui s'appelle Réchit? Les sages vous disent Israël et la Torah, et ils amènent des versets. Israël s'appelle Reshit Tevuato. Donc, je peux changer les X de Bereshit par le mot Israël. Donc, au lieu de dire Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, je dis Be'Israël, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Grâce à Israël, pour Israël, par le biais d'Israël, Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que toute la création du monde, la pensée même de cette création, c'est pour qu'apparaisse une nation qui s'appelle Israël, par laquelle le Créateur agira dans le monde qu'il a lui-même créé. Donc Dieu a placé dans ce monde une interface, un élément essentiel pour faire passer son verbe, son idéal, et ce degré s'appelle Israël. Tant qu'Israël n'est pas dans le monde, eh bien l'infini béni soit-il ne peut pas se révéler. Dès qu'Israël apparaît dans le monde, au moment de la sortie d'Égypte, on peut commencer l'histoire réellement. Donc avant l'apparition du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, nous sommes dans une préhistoire. La véritable histoire va commencer au mois de Nissan de la sortie d'Égypte. Autrement dit, jusque-là, le monde était en attente de l'apparition de cette nation qui va, elle, traduire les valeurs divines sur terre. C'est clair ? Et tant que cette nation n'est pas là, il n'y a pas de témoignage, car il n'y a pas de témoin pour l'Éternel. Et pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu a créé Israël avec la capacité de témoigner. C'est-à-dire, nous sommes les seuls, pas en tant qu'individu, en tant que nation tout entière, de traduire en fait les valeurs divines sur terre. Et c'est en cela qu'il y a eu choix d'Israël. Pas que Dieu a choisi Israël parmi des nations qui étaient déjà là, mais Dieu a choisi de créer Israël bien avant, avec sa capacité intrinsèque qui va introduire à l'intérieur de sa carte magnétique et qui va doter ce peuple de cette capacité, de cette mesugalut en hébreu, yot mesugal, être capable de, en hébreu ça s'appelle une ségoula. Et donc, Israël a la ségoula, de par sa nature propre, de révéler l'infini dans le fini. Si Israël ne joue pas ce rôle, l'Éternel reste dans son exil. Et le monde, donc, est voué à la disparition. Au moment où Israël arrive dans le monde, sur le podium de l'histoire, en réalité, ce n'est pas Israël en tant que homme, femme et enfant, mais c'est Dieu qui descend sur terre. Donc nous sommes les porteurs du message divin sur terre. Nous ne sommes pas un groupe de gens qui appartiennent au judaïsme. Ce n'est pas une religion. C'est une forme créée par le divin que Rabbi Akiva dans la Braïta appelle une forme de vie. Chaya achat omedet be'em tzaharakia. C'est une forme supérieure qui s'appelle Israël, dont le nom Israël est gravé sur son front, et cette forme vivante est le centre même de l'univers. Cette forme vivante est Israël, bien avant qu'apparaissent des Juifs dans ce monde. L'apparition d'hommes et de femmes qui vont être porteurs de cette grande Neshama qui s'appelle Israël, dont je viens de parler, ça a commencé au moment de la sortie d'Égypte. C'est passé par Abraham, en tant qu'individu qui comportait tout cela. C'est passé chez Yitzhak, chez Yaakov, et Yaakov, 12 tribus qui sont devenues 600 000 hommes, des femmes, des enfants, qui sont tous porteurs de ce grand message Israël. Donc Yaakov lui-même va évoluer, il va changer de Yaakov pour devenir Israël. C'est pas par hasard. C'est pas qu'il a inventé quelque chose, c'est qu'il était à ce moment-là, seulement, pas avant, capable d'être porteur de ce message que Dieu a déjà prévu avant la création du monde et qui va maintenant descendre dans le monde. Et donc, Israël est le porte-parole du Créateur. C'est-à-dire qu'il y a ici une étude essentielle que nous devons comprendre avant de rentrer dans l'étude à proprement dit de la Torah, que avec le côté métaphysique, secret de toute la création du monde, il y a un accompagnement dès le début de toute la création d'un degré historique qui va commencer à habiller, qui va s'habiller dans l'histoire de la nation d'Israël et qui est en relation avec la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Rashi, et je clôture ce que je viens de dire, commence le récit de Bereshit en disant que tout dépend du jour où Israël, et cette fois-ci les Juifs, reviendront sur leur terre. C'est le premier Rashi de la Torah, écoutez bien. Et alors, dit Rashi, les nations du monde vont contrarier ce retour, ne vont pas vouloir, et donc il va falloir que les enfants d'Israël expliquent aux nations quel est leur rôle dans l'histoire. Et donc ça va être un combat démagogique d'une nation contre 70, jusqu'au moment de l'acceptation de ces 70 nations, de la place d'Israël dans l'univers, de sa place en tant que peuple et de sa place sur sa terre, et que toute l'histoire d'Israël est en réalité l'histoire de Dieu lui-même. Donc lorsque Dieu veut raconter son histoire, il passe par les événements que le peuple d'Israël va traverser durant son histoire. Vous comprenez? Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à toucher. L'infini, béni soit-il, porte bien son nom, l'infini. On ne peut pas lui donner ni une forme, ni quoi que ce soit au niveau du cerveau humain. Alors qu'est-ce que c'est? On ne peut pas le savoir. On peut savoir seulement ce qu'il veut. C'est-à-dire dévoiler son ratson, et pas son essence. Personne d'entre nous n'est capable de parler de l'infini. Ça ne veut rien dire. C'est ridicule. Donc qu'est-ce qu'on doit, nous occuper de quoi? De savoir ce que cet infini veut. Ça, c'est autre chose. Il veut, il l'a dit, par le biais du peuple d'Israël, en le faisant sortir, lui et pas notre peuple, d'un exil, d'une manière miraculeuse, c'est incroyable quand même, que Dieu vienne intervenir dans le monde, dans une histoire humaine, quelconque, pour sauver un peuple, et lui dire, je suis celui qui t'a sauvé. Il lui parle, et il lui donne une Torah 50 jours plus tard, le jour de Shavuot, en lui disant, voilà le programme divin qui va passer maintenant par toi, peuple d'Israël. Aucune nation ne peut inventer une histoire pareille, parce que c'est de la folie pure, si ce n'est la nation qui l'a vécue. On ne peut pas inventer une chose pareille. Donc nous sommes les porteurs de ce message infini qui s'appelle la prophétie, et toute la Torah entière n'est ni plus ni moins qu'une grande prophétie qui passe par la nation prophétesse pour dévoiler la volonté de l'infini dans ce monde, dans sa propre création. À partir de là, il est important de comprendre l'histoire d'Israël, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire d'Israël est l'histoire de Dieu. Dieu passe par Israël pour révéler ses attributs. Alors nous allons nous concentrer sur la sortie d'Égypte, donc l'apparition pour la première fois de la nation d'Israël. Maintenant on peut commencer à travailler. Avant cela nous étions des individus, aussi grands soient-ils, mais des individus, qui ne sont pas capables en tant qu'individus d'être les porteurs du message divin, c'est impossible. Ce n'est qu'une nation qui peut le faire, et non pas des individus, et Dieu le dit lui-même à Moshe Rabbeinu, je ne me suis pas dévoilé à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, si ce n'est que par un de mes noms très restreints. El Shaddai. Shaddai, c'est ce que vous avez au niveau de la Mezouza. Qu'est-ce que c'est que ce nom Shaddai? Nous expliquent les kabbalistes. She'amar le'olamo dai. Celui qui donne les mesures. Comme en hébreu, ça suffit. Dai. Donc, She'dai. Pourquoi vous avez ce nom à l'entrée de la maison? Ben, tout simplement parce que quand vous rentrez à la maison, il y a une sélection spirituelle, cosmique, qui vous détache de tout ce qui est maléfique et mauvais, et qui ne laisse rentrer dans la maison que la bonne partie, c'est-à-dire vous-même. Sans tout ce que vous avez reçu comme information dans la rue. Vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la mezouza joue un rôle, au moment où vous êtes devant la porte de la maison, il y a comme un rayon qui dit « toi, tu rentres » et tous les autres « daï ». Et c'est ça la protection du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés d'être protégés par qui? Par celui dont l'intérêt c'est que nous soyons les témoins. Donc Dieu protège ses témoins. Et donc quiconque veut faire du mal aux témoins de son histoire divine, eh bien, finit par être détruit. Et nous continuons notre vie, même si on nous rentre dans des fours, même si on nous bafoue, même si on se moque de nous, c'est nous, en réalité, qui sommes les porteurs de l'infini. Donc, nous sommes, par définition, infinis. Et c'est ce que vous chantez, peut-être sans le comprendre, « Am Israël Chai ». Le peuple d'Israël, le peuple, est vivant. Yehudim Metim, il y a des juifs qui meurent. C'est pas pareil. La nation, elle, ne peut pas mourir. Car elle est le véhicule par lequel le verbe du divin et toute sa volonté passent. Donc si j'étudie l'histoire, j'étudie en réalité l'histoire du dévoilement de la volonté divine dans ce monde. Étant donné que ça passe par Israël, comme il est dit justement dans le premier Rashi de la Torah, quel verset Rashi est allé chercher? Koach ma'asav hi gid le'amo. Écoutez bien ce que Rashi dit. Un verset incroyablement beau. Koach ne veut pas dire en hébreu seulement la force. En hébreu, ça veut dire le potentiel. Il y a be koach, potentiel, et be foal, manifesté. Donc, Koach ma'asav, le potentiel de ses actions divines, he guide, ne veut pas dire il a dit, mais il a guidé. En français, le mot guidé vient de guidim, les tendons, les hameaux. Je traduis avec un langage simple, nous sommes les tendons et les nerfs par lesquels le cerveau divin va agir dans le corps de l'humanité. Rashi amène ce verset. Nous sommes donc les porteurs du message divin, comme si la pensée divine passe par les nerfs, par le centre névralgique du monde, qui s'appelle Israël, et qui dévoile l'oralité, et le corps bouge, vit, parce qu'il y a une force qui sait traduire la volonté pour devenir un geste. Ma volonté veut lever ce verre, elle envoie immédiatement une impulsion à ses anges pour aller lever le verre et faire la volonté de ce cerveau. Eh bien, Israël, ce sont les mains, les pieds, les yeux, la bouche, tout le corps de l'infini béni soit-il. Et quand le bien béni soit-il, l'infini béni soit-il, décide de quelque chose, comme moi je suis en réalité celui qui va mettre en pratique cette décision, eh bien Israël, entre guillemets, c'est comme le corps révélateur de l'infini. De la même manière, ça fonctionne comme ça. Et donc Israël, il faut étudier son histoire. Et il y a une mitzvah d'étudier l'histoire d'Israël. Cette mitzvah est dite dans la Torah, « Binu shenot dor vador ». Traduction, vous devez avoir de la bina, du discernement, en étudiant d'or va d'or toutes les générations qui passent. Pourquoi? Étant donné ce que je viens de vous dire, chaque génération fait avancer un petit peu plus le degré de révélation de l'infini béni soit-il et de sa volonté. Et donc, au fur et à mesure que les générations passent, avancent, on peut dire qu'il y a plus de divin sur terre. Vous comprenez ? Dieu descend dans le monde qu'il a lui-même créé. Pour créer ce monde, il s'est, entre guillemets, retiré pour laisser la place. Et par le biais d'Israël, il revient dans sa propre création. Et ce retour de Dieu dans ce monde, ça s'appelle la Teshuvah. C'est pas vous qui faites Teshuvah, c'est d'abord lui qui fait Teshuvah. Il fait un retour sur la terre. Il fait un retour sur sa création. Et vous, par son retour à lui, vous apprenez comment revenir. Et donc vous faites Teshuvah parce que lui fait Teshuvah. Vous comprenez? Malheureusement, quand on est tombé de ce degré de voir cette vision dans un degré étriqué qui s'appelle la religion, quand on a commencé à oublier la nation d'Israël et son rôle dans l'histoire et que nous sommes devenus des religieux, eh bien on a tué le judaïsme. Donc la religion, c'est le meurtrier le plus grand qui puisse exister pour le judaïsme. Je suis anti-religieux. Parce que vous avez l'impression que Israël, c'est l'application des choses. Israël, c'est tout simplement faire des choses au niveau de ce que Dieu a créé au niveau de la nation d'Israël. Quand je mets les tfilines, je ne les mets pas dans mon coin, Yoël qui fait une mitzvah. Ça ne veut rien dire. Je fais cette mitzvah de tfilin parce que j'appartiens à une nation qui a reçu un rôle par le maître du monde. Donc tant que je ne suis pas lié à ma nation, en tout cas par ma pensée, que cette mitzvah je suis en train de la faire comme messager, comme branche de ma nation, eh bien ma mitzvah ne veut rien dire. Et c'est pour ça que les kabbalistes, avant quelconque mitzvah appliquée, disent « Beshem » Kol Israël, au nom de ce Kol Israël, de cette belle Neshama que j'ai appelée tout à l'heure la forme vivante, je suis moi, maintenant, personnellement, en train de faire telle et telle mitzvah. Si tu ne fais pas ça, tu es tombé dans la religion, et quelle est la différence? C'est que dans la religion, ce sont les actes qui font l'homme. Alors que dans le judaïsme, c'est l'homme qui appartient à cette nation qui fait la mitzvah. C'est pas le Shabbat qui me fait, c'est parce que j'appartiens à la nation d'Israël que j'applique la mitzvah du Shabbat. C'est pas les tfilines qui me rendent juif, c'est parce que j'appartiens à cette nation d'Israël que je mets les tfilines. C'est tout à l'envers. Dans les religions, nous ne sommes pas une, l'acte va te rentrer dans la religion. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5 et tu deviens faisant partie de cette nation. En Israël, on ne peut pas faire ça. Il faut changer complètement. Il y a une conversion totale de l'âme, sans rentrer maintenant dans les détails. Et la première question qu'on te pose, c'est est-ce que tu es prêt à faire les mitzvot et à observer le Shabbat? C'est est-ce que tu as pris conscience que tu rentres dans une nation. Tu vas faire partie d'une nation qui, elle, a reçu des mitzvot. Vous comprenez la différence? Et donc, tout est erroné parce que malheureusement, 2000 ans d'exil nous ont rapprochés de ce qu'on appelle aujourd'hui les rencontres judéo-chrétiennes et machin, et un coup tu as les musulmans et tout ça. Donc, on nous propose des émissions. Il y a un an et demi, deux ans, on m'a proposé une émission de télévision. Quelle des trois religions? Donc, il y avait un imam, il y avait un curé, et on m'a demandé d'être le rabbin. Donc, j'ai dit, je ne peux pas faire partie parce que je ne suis pas une religion. Alors, ils n'ont pas compris, donc je leur ai expliqué. Donc, j'ai dit, vous avez deux religions et une nation. Et donc, j'ai refusé, et d'ailleurs, l'émission n'est pas sortie. Parce que ça a été annulé, et ils ont compris qu'il y avait un problème. Donc, ils ont parti étudier. Okay. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Et c'est pourquoi quiconque ne parle pas l'hébreu, et c'est très important, vous ne pouvez pas comprendre ces nuances et ces notions parce qu'elles sont très fines. Elles ne sont pas données malheureusement à quelqu'un qui ne possède pas la langue. Alors Baruch HaShem, vous êtes venu plus pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Eux, Baruch HaShem, ils sont déjà en place. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas mal fait. Même si vous ne parlez pas l'hébreu et que je vous parle aujourd'hui en français, c'est juste parce que nous sommes tous en convalescence. Donc je suis obligé de vous parler encore dans un langage qu'en pour tout doucement adoucir votre alia. Okay? Mais sachez que tous les langages étrangers à l'hébreu s'appellent en hébreu la shon avodah zara, un langage de avodah zara. C'est ce qui veut dire qu'en réalité, on devrait parler tous l'hébreu, et comme nous sommes faisons partie de ce peuple, quiconque ne parle pas l'hébreu est malade, et donc il faut le guérir de cette maladie, parce qu'il n'arrive plus à dire. C'est ça. Vous êtes dans le pays qui est le plus grand hôpital de tous les fous du monde. Et c'est pour ça que nous sommes ici en convalescence. Mais c'est bien parce que ailleurs, tout le monde est malade, mais personne n'est conscient. Ici, on est malade, mais conscient de l'être, donc on est en voie de guérison. Lorsque Dieu crée le monde, il va donc le créer avec 7 degrés révélateurs. C'est-à-dire qu'il se garde pour lui 3 degrés. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de comprendre la force supérieure de son essence. Donc, nous ne comprenons que ce qu'il fait envers nous. C'est comme moi, vous ne savez pas à quoi je pense, vous pouvez juste prendre ce que je vous dis. Donc ce que je vous dis, c'est 7 degrés. Ce que je pense, c'est encore 3 autres qui sont cachés. Où est-ce qu'ils sont cachés, ces degrés? Dans mon cerveau. C'est pour ça que nous avons 3 cerveaux. Un cerveau droit, un cerveau gauche et un cervelet. Donc ces 3 degrés sont à l'intérieur de mon propre personnage. Personne ne peut le décoder ici. Dites-lui que je ne suis pas là. Moralité, vous ne pouvez appréhender, apprécier quelque chose seulement à partir du moment où je me dévoile à vous. Donc le dévoilement se fait par 7 degrés inférieurs. Un immeuble, vous avez beaucoup de constructions ici à Ashdod, Baruch HaShem, vous avez toujours 3 degrés sous la terre et 7 degrés apparents. C'est comme ça qu'on construit un immeuble. Il y a un tiers sous la terre et 2/3 révélés. Et s'il n'y avait pas ces 2/3 sous la terre cachés, qui sont les fondements, eh bien, l'immeuble ne peut pas tenir. Le premier courant d'air, c'est fini.
Un tiers.
D'accord ? 1/3 caché, 2/3 dévoilé. À peu près. À partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre que Akadosh Baruch Hu, d'abord, se trouve dans un cerveau fermé. On va imaginer que ce cerveau fermé est une tête. Et c'est pour ça que la tête est ronde par nature. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore dans le rond, dans cette forme circulaire, une direction. On ne sait pas encore vers quoi ça va. Il y a tout qui bouge dans la tête, il y a tout qui se dévoile dans la tête, mais au niveau caché, et tant que ce n'est pas sorti, il y a un problème. Pourquoi la première guérison de l'être, c'est l'ouverture de la bouche. C'est pour ça que le peuple d'Israël, quand il est né, et qu'il est lui-même le porteur du message divin, on lui dit quoi ? Ouvre ta bouche. Donc la première fête du calendrier hébraïque, c'est Pessah, ouvre ta bouche, Pessah. Et on appelle ça la Haggadah, donc on apprend à parler, les Hadiths. Et quiconque ne parle pas à Pessah, reste malade. Et donc l'Égypte est une grande maladie qui étouffe celui qui a cette maladie, dans un monde où il ne peut pas se révéler. Donc en hébreu, il devient ilem, muet, qui donne naissance au mot alim, violent. C'est-à-dire la violence vient parce que tu ne sais pas parler, exprimer par la parole, tu es obligé de te dépouler par tes gestes. Je reviens. Les trois degrés cachés s'appellent dans la Kabbalah le Keter, la Chochma et la Bina. Peu importe si vous ne retenez pas ces notions, pour ceux qui ont déjà entendu, nous parlons ici donc du cerveau supérieur par lequel nous recevons l'information de l'infini, et c'est pour ça que nous avons les téphilines qui sont posées ici et non pas ici. Beaucoup de gens ne savent pas mettre les téphilines. Le Ben Israël dit que la plupart des gens qui ne mettent pas les téphilines, c'est comme s'ils ne les avaient jamais mis dans sa vie, dans leur vie. Donc, il faut les mettre comme s'ils les avaient jamais portés. Les téphilines, il faut les mettre à un doigt après la racine qui commence le cheveu. C'est-à-dire, c'est ici, sur la fontanelle et non pas sur le front. Et donc, il y a, les téphilines touchent l'infini, en fait. Ces téphilines descendent sur tous ces degrés. Elles touchent, en fait, le cerveau droit par la nerf, le cerveau gauche et le cervelet par le nœud. Donc, ça touche tous ces trois degrés. Mais ces trois degrés doivent maintenant se révéler en bas, c'est-à-dire dans mon corps. Malheureusement, il y a un rétrécissement entre ma forme circulaire et mon corps qui devient en fait une direction. Et tout le problème, c'est de traverser ce canal étroit qui s'appelle en hébreu Savar, parce qu'il est Tsar, parce qu'il est étroit. Et c'est pour ça que ça s'appelle dans la Kabbalah Mitzrayim. Donc Mitzrayim, c'est ce canal qui empêche les trois cerveaux de se révéler dans les 7 degrés de la vie. Une fois qu'on est sorti de ces trois cerveaux, qu'on a réussi à traverser le problème, à court-circuiter l'embêteur numéro 1, Paro vient du mot Léafria, il nous embête, c'est tout. Paro, il veut dire gêneur en hébreu. Afra, dérangement. Donc si j'arrive à le court-circuiter, cet afra, ce dérangement, eh bien je peux commencer à trouver un sens à ma vie. Eh bien, toute l'histoire d'Israël commence à la sortie de l'Égypte, donc à la sortie de ces trois cerveaux, pour commencer à trouver une direction dans la vie. Combien de degrés il y a donc dans cette direction? 7. Quels sont ces 7 degrés? Nous avons d'abord le bras droit, tout le côté droit, qui s'appelle la bonté, le chesed, dans le langage de la Kabbalah. Donc quand je veux donner de la tzedaka à un juif, je dois le donner avec la main droite. Sachez-le. Quand vous voulez manger, quand vous voulez boire, quand vous voulez attraper une pomme pour la manger, il faut la prendre de la main droite et faire la bénédiction avec la main droite. Les gauchers, pour eux, c'est la main gauche, mais selon la Kabbalah, même les gauchers doivent respecter ce rythme-là. Par exemple, mon neveu est gaucher, et il a fait sa bar mitzvah, je lui ai quand même mis et acheté des tefillines à la main gauche, comme tout le monde, pas à la main droite. Selon la Kabbalah. Selon la Kabbalah, tu vas mettre tes tefillines à la main droite, à la main gauche. Selon le pshat, tu dois les mettre à la main droite. Donc, puisque nous suivons plus ou moins le degré des kabbalistes, je lui ai mis les tefillines comme chez tout le monde. Donc je passe. Précède la bonté. Cette bonté, elle a un personnage qui lui correspond dans la Bible. Abraham Avinu. Donc Abraham, on l'appelle Ish HaChesed. C'est-à-dire qu'il est comme étant, un, le premier par lequel la grande Neshama dont j'ai parlé tout à l'heure va commencer à se dévoiler. Il va être le porteur de cette première sphère qui descend de la tête et qui se dévoile dans la bonté. Ça veut dire que la chose la première à dévoiler dans ce monde, c'est la générosité. Le partage. Donner de sa connaissance, donner de son savoir, donner de sa force, donner de son argent, donner de ce que vous pouvez. Deuxième degré, qui est juste en face, c'est tout le côté gauche qui va s'appeler la Gevura. La Gevura, c'est les limites. C'est la mise en limite de cette bonté. Car une bonté mal gérée peut devenir n'importe quoi. J'ai envie de donner, mais je ne vais pas commencer à faire n'importe quoi, à accueillir des gens que je ne dois pas accueillir, à être bon avec mes ennemis, et à transformer leur souffrance comme si c'était la mienne, et faire une fête de la souffrance. Il faut faire très attention, il y a des limites. Et ceux qui n'ont pas ces limites-là, malheureusement, pensent qu'ils sont bons, mais en réalité, ils sont des destructeurs. Comme on dit en français, Mishab Bosso Ammaho. C'est le français de demain. Quand on veut embrasser quelqu'un, on peut l'aveugler parce que c'est comme l'enfant qui court, mamie, paf, il lui met le menton dans l'œil et il a aveuglé par trop de bonté. Donc il y a des limites. Donc le deuxième personnage porteur de ce message s'appelle Yitzhak. Dans le mot Yitzhak, il y a le mot Hok, Hak, la vérité, l'absolu, et Ket, les limites de la vie, Chai. Troisième élément s'appelle la Tiferet. Tiferet qui donne naissance plus tard dans l'histoire au mot thérapie. C'est-à-dire la thérapie c'est quoi? C'est l'axe central du corps qui est l'équilibre en fait de tout ce que l'homme est. Donc qu'est-ce que c'est que être en bonne santé? C'est être équilibré dans tout ce que nous faisons. Ni trop, ni pas assez. C'est ça la guérison, c'est ça la bonne santé. La mauvaise santé, c'est l'exagération d'un degré par rapport aux autres. Donc tu sors de l'équilibre et tu défais tout le système. Donc la thérapie appartient à Yaakov, qui est la base centrale, qui est la clé du cœur, qui un jour deviendra donc Israël. Quatrième partie, nous sommes dans la hanche droite. C'est une spirale en réalité qui descend. Donc j'arrive à la hanche droite qui correspond à Moshe Rabbeinu et qui représente le Netzach. Netzach, c'est l'éternité. Qu'est-ce que c'est que cette éternité? D'abord, c'est une victoire. Netzach veut dire Nitzachon, parce que quelque chose qui est éternel, c'est qu'il a gagné. Les nations qui ont disparu de ce monde, c'est qu'elles ont perdu. Israël, qui reste encore malgré tout ce qui s'est passé, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'éternel là-dedans. Parce que nous sommes les porte-parole de l'éternel, donc on ne peut pas, il ne peut pas se permettre, entre guillemets, de nous échapper, de nous sortir de ce monde. Donc il a besoin de nous, entre guillemets, pour témoigner de son être. Et il le dit dans la Torah, hein. C'est pas moi qui le dis, Yoël, avec une insolence. Non. Atem Edai va'ani el. Parce que vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Il n'y a pas de témoins, je ne peux pas me dévoiler, personne ne me trouvera. Donc le monde est voué à la destruction. D'ailleurs, si Israël n'avait pas reçu la Torah à Shavuot, il est écrit clairement que le monde revient à Tohu Bohu. Donc si vous n'êtes pas capable d'être porteur de ce message que je vous avais prévu d'être, je plie toute la valise, on arrête tout le monde et toute l'existence s'arrête. En réalité, qui c'est qui maintient le monde? Israël, parce qu'un jour il a accepté de recevoir la Torah, donc être le porte-parole de l'infini. Donc toutes les nations et tout ce qui se passe dans le monde, ça ne vit que parce qu'un jour on a accepté de recevoir cette Torah, cette parole divine. Moshe Rabbeinu, Netzach, donc l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Mais tout simplement de savoir faire les choses continuellement, ne pas faire les choses en dents de scie. Il y a des gens qui commencent et qui s'arrêtent. Tous les quarts d'heure, ils font quelque chose, ils arrêtent. 10 jours ici, ils arrêtent. Une nouvelle place, ils arrêtent. Il n'y a pas de continuité. Ça montre un problème, une faiblesse. Il faut la régler. Quatrième, cinquième degré, Hod, c'est la hanche gauche. Elle correspond à Aharon, le frère de Moïse. Et Aharon, c'est la beauté. C'est-à-dire faire les choses, si déjà tu les fais, fais-les bien. Construire un mikvé, c'est pas la peine de faire juste un trou avec de l'eau. Fais quelque chose de bien. Tu peux chauffer l'eau, tu peux faire des miroirs, tu peux permettre aux femmes qui vont au mikvé d'avoir des serviettes propres. Tu veux t'acheter des tefillines, achète-toi de belles paires de tefillines. Tu veux acheter un loulav, ne va pas juste le dernier jour avant Soukhot pour t'acheter un petit bout de balai qui reste. Achète-toi quelque chose de correct. Tu veux t'acheter un talit, fais la mitzvah d'honorer à Kadosh Baruch Hu, achète-toi un beau talit. Ça, c'est Hod. C'est-à-dire savoir aussi être beau dans ce que tu fais. Parce que finalement, nous sommes les représentants de l'infini. Donc, nous travaillons pour lui. Et qui est visible? Jamais le patron. Toujours celui qui est voyage dans les routes pour représenter, donc le représentant. Et si le représentant a des taches sur ses vêtements, et qu'il ne sait pas parler, et qu'il n'est pas correct, et qu'il vole, et qu'il je ne sais pas quoi, eh bien qui c'est qui est en réalité mis en question? Le patron. Donc nous devons être de bons représentants à la hauteur de notre responsabilité qui n'est pas facile à vivre. Parce que traduire les valeurs de l'infini avec la morale de l'infini dans ce monde, c'est un métier. Et si on ne l'étudie pas, on ne sait pas pourquoi nous sommes venus, c'est ce que j'essaye d'enseigner à mes élèves au Machon Meir, depuis 20 ans, eh bien, à quoi ça sert de commencer à étudier immédiatement la Gemara, la Mishnah, les Halakhot? D'accord, on a compris que tu as envie d'étudier, mais tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Et donc il y a quelque chose de préalable à tout ça. Ça c'est Aharon. Après il y a la Brit Mila, qui s'appelle le Yesod, le fondement, qui appartient à Yosef HaTzadik. Et cette partie est en réalité le canal de la vie, par laquelle cette force conductrice va traduire tout ce qu'il y avait au départ, en fait, dans la première pensée avec les trois cerveaux, qui va l'amener finalement à la réalisation totale, qui est justement le septième degré, qui s'appelle la Malchut, la royauté, et qui appartient au roi David. Donc je vous ai fait maintenant l'historique des 10 sphères, Keter Chochma Bina, Chesed Gvura Tiferet, Nesachod Yesod et Malchut. En quoi ça vous intéresse? Mais tout simplement, nous sommes aujourd'hui dans une période, juste après la sortie d'Égypte, je vous ai dit qu'on vient de traverser le coup, donc pour dévoiler la Torah. Donc nous avons combien de sphères? 7. Donc nous avons à compter 7 semaines. C'est ce qu'on appelle Sirat HaOmer. Pourquoi nous comptons 7 semaines? Ben tout simplement parce que chaque semaine est là pour corriger en nous l'une des sphères que je viens de vous dire. Et donc si vous savez en fait dans quelle semaine vous vous trouvez selon le jour qu'on compte, et c'est pour ça qu'on compte non seulement les jours mais aussi les semaines, je peux savoir d'une manière très précise dans quelle sphère cosmique se trouve la journée dans laquelle je suis. Donc c'est pas pour compter, Kadosh Baruch Hu n'est pas à ce niveau de nous demander de compter, on n'est pas des enfants organes. Compter en hébreu, comme en français, c'est parce que quelque chose est important. Vous le dites, ça compte pour moi. Et quand tu comptes quelque chose, c'est qu'il est important. Donc, Sfartem Lachem, ou Sfartem Lachem, je veux que ça ait une importance pour vous. Moi, j'en ai rien à faire que vous comptiez ou pas, ça ne veut rien dire compter. Mais quand tu comptes et tu sais où tu te trouves et qu'est-ce que tu dois dévoiler tel et tel jour d'une manière précise, tu peux corriger en réalité ton être selon le temps qui passe. Et pas seulement être un spectateur du temps qui passe. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait passer le temps. C'est une catastrophe. Il y a des gens dont le métier, c'est de faire passer le temps. Hachem Ishmo. C'est-à-dire, il y a du temps, tu te lèves tous les matins, il est là, tu le fais passer. Et le lendemain, tu le refais passer. C'est un passeur de temps. Le temps dans la Torah, c'est un panier d'action. C'est-à-dire, le temps est fait que de ce que toi, tu as fait. Donc, il est différent pour chacun de nous. Même si le temps, apparemment, passe de la même manière, c'est faux. Le temps, c'est le remplissage de ce que j'ai fait pendant ce temps. Moralité, je dois savoir où je suis. Maintenant, comment est-ce que ça s'inscrit dans tout ce que je vous ai dit au début du cours, puisque nous avons seulement 10 minutes. C'est tout ce qui nous reste. Comme temps. Eh bien, tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu nous montre comment il fait avancer son idéal divin dans notre histoire. Regardez, c'est incroyable, mais vrai. Première semaine, je vous ai dit que c'est la sphère de Chesed, c'est de la bonté. Qu'est-ce que nous fêtons la première semaine? Pessah, c'était la bonté divine. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, à la première semaine de Pessah, va agir lui aussi comme les sphères dont je viens de parler. C'est-à-dire, je vais faire avec vous une bonté totale. Je vais vous sortir d'Égypte, vous n'avez rien besoin de faire. Juste, vous acceptez. Vous voulez faire partie de ceux qui sortent, je vous prends. Beyat Chazaka ou Bizroa Netuya. C'est-à-dire, je tends ma main avec toute la bonté, je vous sors de là-bas. Incroyable. La bonté divine, première semaine, Pessah, ça correspond parfaitement. Deuxième semaine, c'est pas dans le sens chronologique. parce qu'Akadosh Baruch Hu, selon l'histoire, va utiliser les mêmes forces pour faire son action. Deuxième semaine, la Gevura. Qu'est-ce que nous avons mentionné la deuxième semaine du Homer? Yom HaShoah VeHagevura. Incroyable. C'est appelé par des hommes. Hein? Ça s'appelle la semaine de la Shoah et de la Gevura. Comme si ceux qui ont donné ce nom savaient la sphère de Gevura qui se trouve ce jour-là. Je vous garantis qu'ils ne savaient pas. Mais c'est incroyablement vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette semaine, étant donné que c'est quelque chose de difficile, parce qu'il donne une direction et que c'est le côté gauche qui doit donner les limites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, quand le peuple d'Israël ne sait pas donner les limites et il ne sait pas où il doit être, et il pense que Berlin, c'est Jérusalem, ou Paris, ou New York, ou je ne sais où, ben malheureusement, Akadosh Baruch Hu qui fait avancer son histoire, ça passe et ça casse. Donc nous vivons des temps difficiles. Troisième semaine, je vous ai dit que c'était l'équilibre. Donc l'équilibre, Tiferet, correspond à Yaakov qui est devenu Israël. Qu'est-ce que nous avons fêté la troisième semaine? Yom HaAtzmaout. Incroyable. Je vous ai dit que c'était la guérison du peuple, c'est la phase centrale. Donc Yom HaAtzmaout, c'est de devenir soi-même Atzmi, pas seulement indépendant, parce que tu peux être indépendant parce que tu n'es pas soumis à un patron, mais tu n'es pas encore toi-même. Moralité, tu es sorti d'Égypte, donc tu n'es plus soumis au Pharaon, mais tu ne sais pas qui tu es. Là, on sait qui nous sommes. Nous sommes revenus sur notre terre, donc au niveau de l'histoire, Akadosh Baruch Hu nous dit, la meilleure semaine pour donner l'équilibre à ma nation, donc à mon dévoilement, parce que mon dévoilement passe par cette nation, c'est justement la troisième semaine qui est l'équilibre. Comment appelle le Rav Kook Medina Israël, qui n'a jamais vu d'ailleurs, parce qu'il est mort avant, 15 ans avant l'indépendance, il a vu la terre, mais il n'a pas vu l'État. Il appelle Yesod Kisse Hashem Ba'olam. C'est-à-dire, c'est le fondement du trône céleste dans le monde. C'est ça, Medina Israël. C'est-à-dire, vous êtes dans une Medina qui n'est pas seulement une structure politique, avec des hommes politiques et tout ce qui se passe. Non. C'est le trône sur lequel Dieu, l'infini béni soit-il, est installé. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, Dieu attend la création de cet état pour se déposer et se reposer. Enfin, on a donné à Kadosh Baruch Hu un endroit pour se reposer, comme à cette fameuse colombe qui volait parce qu'elle est fatiguée, elle ne sait plus où se poser. Eh bien, à un moment donné, Matsa Manoach le Kafragla, elle a trouvé un endroit où se poser. Donc, à Kadosh Baruch Hu se dépose sur Medinat Israël. Yesod Kisse Hashem Ba'olam. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est rose. Il faut arranger pour que cette chaise soit bien. De temps en temps, elle bouge. De temps en temps, il y a un pied qui ne va pas. Eh bien, nous sommes là pour travailler. On n'est pas là pour recevoir seulement de la Médina. On est là pour lui donner. J'ai d'ailleurs écrit un texte en hébreu le jour de Yom HaAtzmaout où j'ai fait une déclaration d'amour à mon état. Et je pense que Gad est en train de le traduire. Pour vous le transmettre. J'ai écrit donc à cet état d'Israël, comme si c'était, je vais vous l'envoyer, comme si c'était en fait une histoire d'amour entre moi et elle. Et je dis elle parce que en hébreu c'est Médina. Alors qu'en français c'est masculin. En hébreu c'est une femme. D'ailleurs, votre relation avec la terre d'Israël n'est pas une relation avec une maman, c'est une relation avec votre épouse. Car si elle, la terre d'Israël était la terre mère, c'est un inceste. La mère du peuple d'Israël, c'est l'Égypte. C'est de là-bas que nous sommes nés. C'est la matrice. Et nous sommes en terre d'Israël comme avec notre épouse. C'est pour ça que le texte de la Torah qui nous dit de venir sur la terre nous dit qu'il t'avo el haaret lorsque tu auras un rapport intime avec cette terre. Une bia. C'est-à-dire que notre rapport avec la terre est un rapport intime et de ce rapport vont naître des fruits. Ceux que vous voyez dans les marchés et ceux que vous voyez aussi dans les enfants, dans les ganim. Ce sont tous les enfants de notre rapport avec la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aaron, Yosef, David. Quatrième semaine, Moshe, Netzach. Qu'est-ce qu'on a fait avec Moshe? Qu'est-ce qui s'est passé la quatrième semaine? Moshe, c'est l'éternité des choses. Qu'est-ce que c'est que l'éternité des choses? C'est d'amener les choses au niveau de leur continuité. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe dans la... dans notre vie, le jour de l'éternité, où il faut continuer la chose? Eh bien, nous sommes dans la quatrième semaine. Netzach du Netzach, c'est-à-dire le quatrième jour de la quatrième semaine, c'est la naissance de qui? De Herzl. Incroyable. Dieu a fait naître Herzl au même moment qui appartient à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu nous a fait sortir d'Égypte et Herzl a prévu l'avenir et la fin. Même si lui est une montagne d'hommes, d'ombre. Herzl, Har, Shelsel. Une montagne d'ombre. Autrement dit, quiconque ne sait pas voir la réalité ne verra qu'une montagne de détritus et d'ombre en regardant l'état d'Israël. Et ne pourra pas, bien entendu, dire le Hallel le jour de Yom HaAtzmaout, parce qu'il ne peut pas dire le Hallel sur un état pareil. Seulement, je rappelle à ceux qui ont dit le Hallel à Pessah, et la nuit et le matin, qu'ils ont dit le Hallel pour des enfants d'Israël qui étaient tous Ovdei Avodah Zarah. Alors comment est-ce que vous avez dit le Hallel pour des gens qui ont fait de la Avodah Zarah? Car tous les sortants d'Égypte étaient en réalité des Ovdei Avodah Zarah. C'est écrit clairement. Donc pourquoi tu dis le Hallel à Pessah? Donc vous voyez que ça ne tient pas la route. Moralité, Herzl est là. Quatrième semaine. Cinquième semaine, Hod. Hod, Hod Shebehod, Aharod. Qu'est-ce que c'est que cette sphère? Cette sphère, elle est déjà en train de penser à l'avenir, à la malchut, à la royauté. Sans rentrer maintenant dans les détails, c'est une clé dans la Kabbalah. Donc le Hod du Hod, c'est-à-dire la cinquième partie de la cinquième semaine, appartient à un homme extraordinaire qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est l'Agba Omer. Donc la cinquième semaine, c'est l'Agba Omer. Akadosh Baruch Hu a placé cette fête pendant cette semaine-là. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette semaine, il y a le souci de l'avenir. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai sur lequel il est dit qui loti shakach mipi zaro. La Torah ne sera jamais oubliée de nos enfants grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'il a été intelligent et qu'il a gardé tous les secrets de la Torah dans une boîte de conserve qui s'appelle le Zohar HaKadosh. Et ce Zohar, il a dit de l'ouvrir à la fin des temps. Donc aujourd'hui, nous avons fait et on a ouvert le Zohar, et aujourd'hui, c'est la Torah de la terre d'Israël que vous êtes en train d'entendre maintenant. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de vous enseigner avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie du Zohar. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné un homme extraordinaire qui ne se souciait que d'une seule chose, de la royauté d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire, tout le combat de Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas dans la yeshiva. Rabbi Shimon Bar Yochai était un combattant. C'est un soldat de Tzahal de l'époque. Ça, on évite de vous le dire. D'ailleurs, ce que vous avez lu dans la Haggadah de Pessah, où ces fameux sages étaient assis à Bnei Brak pendant toute la nuit, jusqu'à ce que les élèves sont venus leur dire que le temps du schéma est arrivé, que faisaient-ils à Bnei Brak, tous ces sages? Ils préparaient la guerre avec Bar Kokhba contre l'Empire romain qui régnait ici. Ça, on ne vous le dira pas. Et les 24 000 élèves qui sont morts, les élèves de Rabbi Akiva, la Gemara nous dit, « Shemet ou be'azkara ». Qu'est-ce que c'est « azkara » en arabe? Azkar. L'armée. Ils sont morts à l'armée. C'est-à-dire, il y a eu 24 000 morts dans la rébellion de Bar Kokhba. Vous comprenez ça? C'est incroyable. Ça, on évite de vous le dire. Donc, l'Agba Omer, c'est pas seulement une fête, vous avez l'impression que c'est une fête religieuse, l'Agba Omer en monte à Mérode. Il faut savoir qui est le type de cette fête. Et si vous ne connaissez pas l'âme et le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il nous a laissé, alors on va allumer des veilleuses, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, machin. Encore une fois, on tombe dans la religion. Sixième semaine, Yesod. Qu'est-ce qui se passe la sixième semaine? Hein? Qu'est-ce qui se passe la sixième semaine dans le monde? Non. Bien sûr, sixième semaine, correspondant à Yosef HaTzadik. Que s'est-il passé dans l'histoire?
Hein? La déclaration d'indépendance,
non? Non, ça y est, l'indépendance, c'était la troisième semaine.
Non, je pensais au 15 mai. Non.
Il a fait, mais oh, Yerushalayim, on est en train de dévoiler maintenant Jérusalem. Donc Akadosh Baruch Hu nous a redonné Jérusalem dans l'histoire du peuple d'Israël. Regardez la correspondance, c'est incroyable. Et on arrive donc à la Malchut, à la royauté, qui est David Ameler, qui est en réalité la fête de Shavuot, où toute la lumière va descendre. Donc Akadosh Baruch Hu a prévu toutes les fêtes. Quand je dis prévu, c'est vraiment dans le sens du terme. Il a prévu. Il a vu avant. Enfin, moi, j'ai l'avantage de ne pas être né en France. Donc à chaque fois que j'entends un mot en français, je le décortique. Donc quelqu'un qui est né en France, il dit « il a prévu ». Mais moi, quand je dis prévu, je dis « mais attends, il a prévu, donc il a vu avant ». Je fais un travail. Ça me permet d'étudier aussi la langue que je suis en train de parler. C'est un avantage. Par exemple, quand j'étudie la Torah, j'évite immédiatement de regarder Rashi, Tosfos et tout ça. J'essaie d'abord de me voir ce que je peux moi comprendre. Parce que, encore une fois, si on tombe dans la religion, dès que tu étudies un texte, qu'est-ce que tu fais? Réflexe. Tu vas voir Rashi, tu vas voir machin, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Mais eux, ils ont étudié. Toi, tu n'as rien étudié. Donc, moralité, il faut faire attention avec les commentaires. Parce qu'il te permet de te taire et tu n'as rien fait. Donc, je ne peux pas rester dans le commentaire. Il faut que je parle, il faut que je cherche moi-même. Et après, je vais voir ce que Rashi a dit, Baruch HaShem. Vous comprenez, c'est toujours la même chose. C'est comme étudier la Torah. Pourquoi nous avons deux oreilles? Parce que nous avons toujours deux sons de cloche. Donc, j'ai besoin de savoir ce que lui dit, ce que moi je dis. C'est pour ça que les sages nous disent où tu étudies à deux, ou tu ne peux pas, tu es en train de mourir. O chavruta o mituta. Donc moralité, j'ai besoin d'entendre un sens. C'est l'autre sens, sinon tu es dans l'un des sens. Vous comprenez comment on décortique la langue? Quel, mais
voilà. Il y a aussi la sens, le sensation.
Nachon, la sensation. Okay. Alors, Bezat Hashem, ce que je voulais vous dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu participe activement à notre histoire, parce qu'en réalité, nous sommes tout simplement le vecteur de l'histoire divine qui passe à travers nous. Dieu a rêvé d'un monde qu'on est en train de réaliser. Nous sommes les acteurs de son rêve. Et vous êtes maintenant des acteurs actifs, pas seulement par télévision interposée à 3 à 4 000 km. Vous êtes aujourd'hui ici et vous devenez des acteurs de l'histoire du peuple d'Israël. Donc, Kadosh Baruch Hu Bezat Hashem nous aide à voir les étapes suivantes. Regardez ce qui s'est passé cette année, c'est extraordinaire. Vous avez tous senti, je me permets de vous le dire, même sans vous demander, qu'il se passe quelque chose de changé dans le monde. Israël est en train de prendre une force parmi les nations, on est en train de nous respecter de plus en plus, et c'est écrit. Pourquoi? Ben parce que vous êtes là. Et comme vous êtes là, vous avez apporté aussi des biens. Vous avez apporté aussi une possibilité de développer ce pays. Donc il faut aussi de l'argent, donc il faut aussi des infrastructures. Donc les jeunes sont en train de devenir brillants. Ils inventent des start-up, ils sont en train d'inventer des choses qui sont vendues des milliards de dollars dans le monde. On nous voit comme des dieux. Vous savez qu'en Inde, on pense qu'on est des dieux. Quand un Israélien va en Inde, les gens l'embrassent. Il y a les vaches et les juifs.
Oh là,
incroyable. Dans 3 mois, un petit peu moins, vous allez voir des tonnes de Chinois qui vont arriver. Ils nous voient comme des surhumains. Ils sont sans. Vous savez que en Corée, on étudie la Gemara. Ils ont compris que le peuple d'Israël a quelque chose de bizarre. Ils se disent, mais c'est des extraterrestres. Et c'est vrai, nous sommes des extraterrestres. Parce que nous sommes en réalité le représentant de l'infini béni soit-il. Alors tout ceci est en train d'avancer, nous sommes en plein dans la Géoula. Ne dites jamais on attend la Géoula. on attend la Géoula Shlema. On attend qu'elle se complète, mais on est en plein dans la Géoula déjà. Et nous sommes tous des acteurs actifs de cette Géoula. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On va prendre 2-3 questions, donc allez-y, essayez de poser des questions maintenant.
Une question vraiment, pourquoi vous ne faites pas la distinction entre peuple et nation? J'entends répéter tout au cours de votre discours, nation.
Parce qu'en réalité,
alors qu'il s'agit d'un peuple.
Pas du tout, il s'agit d'une nation. Et pourquoi il s'agit d'une nation? Parce que vous avez oublié un verset dans la Torah. Ce verset qui dit que lorsque Yitzhak et Esav étaient dans le ventre de leur maman, Rivka, il est dit là-bas où les hommes mi les hommes yehemas verav yaavod sa'ir shne goim bebitner ou shne leumim mi me'aich yiparedu. Traduction, tu n'as pas deux peuples dans le ventre, tu as deux nations dans le ventre. Et donc, où les hommes, mille hommes, yéhémas, lorsque l'un, c'est-à-dire Ésaü, sera haut, l'autre sera bas, et lorsque Israël commencera à monter, Esaü va commencer à descendre. Il s'agit là-bas de nation. Faire très attention.
Ok. On me dit que tout simplement, pendant les périodes de Pessah jusqu'à la Pâque, ce sont
des jours de deuil.
Et on me dit, et alors on est un peu, on n'est pas âgé, parce que tout simplement, on est à Polamouet. Bon, ça c'est vrai. Mais il y a un mariage, il y a une musique, etc. On ne sait pas si on est dans le deuil, ou bien. Alors là, on est toujours un peu coincé là-dessus.
Tout à fait. Très très bonne question. En réalité, nous sommes dans une période qui, selon la Kabbalah, est ce qu'on appelle un milui mochin de gadlut de toch midot. C'est-à-dire que nous sommes dans une étape qui nous fait monter vers la 50e porte qui s'appelle Shavuot. Et étant donné que nous montons, donc Pessah c'est Yom Tov, Shavuot c'est Yom Tov, et entre les deux, il y a 7 semaines de Chol HaMoed. Chol HaMoed, ce n'est pas un deuil. Chol HaMoed, c'est une simcha. C'est-à-dire, même les gens qui ne se coupent pas les cheveux, c'est pas parce qu'ils sont en deuil, c'est parce qu'ils sont dans une fête. Deuxièmement, un type m'a dit la semaine dernière, et je le traite d'imbécile, j'aimerais bien fêter Yom HaAtzmaout, mais c'est dommage que c'est tombé pendant le Homer. Alors je lui ai dit, mince, Dieu a dû se tromper. Il nous a placé une fête en plein milieu, il faut le se plaindre. Il faut se plaindre. Il a compris la bêtise qu'il était en train de dire, et qu'il ne faut pas rester dans le système tel qu'il était. S'il y a des choses dans l'histoire qui sont en train de se transformer, ça veut dire que nous sommes en train de corriger et de réparer même le deuil en question. Car le deuil en hébreu, c'est quoi? C'est tout simplement avoir perdu l'unité. En hébreu, comment on dit un deuil? Evel. Evel, c'est Aleph et Bel. Bel en hébreu, ça veut dire sans. Comme bli. Donc bli aleph. Evel, ça veut dire j'ai perdu l'unité, chas v'shalom. Et là, on est en train de retrouver l'unité, donc je dois me réjouir. Donc, non seulement je dois ne pas avoir peur de me raser le jour de Yom HaAtzmaout, mais je dois me raser. Et moi, je me suis rasé exprès le jour de Yom HaAtzmaout pour montrer que j'ai la conviction que c'est l'Éternel qui a créé ce jour et qui nous l'a donné cadeau. Et donc je me fais beau pour lui.
Et les mariages, c'est
oui. Il y a des bar mitzvah. Alors aujourd'hui, il y a encore des choses qui sont en train de... Et quand il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et comme je dis souvent, c'est en fait notre mainstream, ce qu'on appelle au Machon Meir, c'est que lorsque réveilleront des rabbins un petit peu plus courageux, les choses vont commencer à changer.
Oui, simplement une constatation. Lorsque les 70 nations auront leur ambassade à Jérusalem, on pourra dire que la
Bible est... Bevadaï, la reconnaissance des États-Unis déjà, c'est une des plateformes de la Géoula. Lorsque les nations du monde qui ont déjà reconnu, mais qui l'ont regretté, en votant à l'ONU notre existence, depuis le jour de leur premier vote qui était pour, tous les votes sont contre. Il n'y a jamais eu un vote pour Israël. Incroyable. Mais à la fin des temps, il y aura un retour vers cette reconnaissance-là, et elle va passer justement par la reconnaissance politique et la reconnaissance de la place d'Israël, tout simplement, en tant que nation sur cette terre. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans les pays étrangers, entre guillemets étrangers pour les Juifs, c'est tout simplement pour faire en sorte que les Juifs quittent ces endroits et reviennent vivre sur cette terre. Okay.
Pardon, alors juste excuse-moi. Il y avait monsieur avant, tu parleras.
Excusez-moi.
Je
pense que j'ai été assez clair. Je pense que je ne fais pas des actes pour appartenir à ce peuple. J'appartiens à ce peuple qui a reçu des lois à appliquer. Donc je suis dans la nation et non pas dans la religion. Et j'expliquais tout à l'heure que la religion, c'est que les actes font l'homme. Alors que moi, c'est un homme qui fait des actes. D'accord ? C'est pas un bébé juif qui naît, il est né avant qu'on lui fasse la Brit Mila. On est d'accord ? Donc c'est un juif à qui on enlève un bout. Mais si c'était la Brit Mila qui le rendait juif, tous ceux qui n'ont pas la Brit Mila ne sont pas juifs, pas du tout. Ça peut être un juif qui a vécu jusqu'à 70 ans, sans Brit Mila, mais il est juif. Et d'ailleurs, quand il mourra, on lui fera la Brit Mila mort. Vous savez ça ? Eh bien voilà.
Alors, Daniel, une dernière question. Vas-y. S'il vous plaît.
70 ans, oui. Nachon. Nachon. Il y a une correspondance avec la royauté d'Israël, qui est la Malchut, qui est la 70. Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la Malchut d'Israël, c'est-à-dire dans le royaume d'Israël, qui est ni plus ni moins que le royaume de Dieu sur terre. Et donc on attend une seule chose maintenant, c'est le dévoilement du roi qui va en réalité gérer toute cette structure, et on l'appelle le Mashiach.
Est-ce que les 70 nations vont-elles reconnaître...
Elles sont obligées de reconnaître, même Ishmaël, c'est-à-dire nos ennemis musulmans arabes, vont faire teshuva. D'où est-ce que je le sais ? Mais tout simplement parce que Ishmaël, à la fin de sa vie, lui-même a fait teshuva. Et donc, la Torah, c'est ce qui s'est passé dans la matrice, se passera chez les enfants. Eh bien, comme chez nous, nous sommes exactement la réplique de ce que Yaakov a subi dans sa vie, eh bien, chez les musulmans, ça va être la réplique de ce que leur père a fait dans l'histoire. Étant donné qu'Ishmaël a fait teshuva dans l'histoire, les musulmans vont faire teshuva et vont reconnaître Israël à la fin des temps.
Amen.
Merci à tous.
Merci. S'il vous plaît, ne bougez pas un instant. Nous avons encore une...